Père Renaud Saliba, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Maria.
Voilà Père, pour commencer cette émission, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ?
Je suis donc le Père Renaud Saliba, je suis aussi religieux, j'appartiens à une congrégation missionnaire qui s'appelle les Oblats de Marie Immaculée. J'ai 50 ans et je suis donc actuellement le recteur d'un sanctuaire marial qui se trouve en Mayenne, dans la ville de Pontmain. C'est un lieu d'apparition reconnu par l'Église.
Voilà, Pontmain, où d'ailleurs est passée, il n'y a pas si longtemps, la calèche, le grand M de Marie.
Oui, bien sûr, parce que c'est un des cinq points du grand M de Marie. C'est le point le plus au nord à l'ouest. Et donc, on a eu la chance d'avoir le passage de la calèche au mi-août. C'était juste avant le 15 août. C'était le 10, 11 et 12 août. Ils sont restés 3 jours et ça a été vraiment une très belle fête.
Une très belle fête, parce que Radio Maria France, on a suivi chaque jour ce pèlerinage qui touche bientôt à sa fin avec cette arrivée à Notre-Dame de Pellevoisin cette fois.
Exactement, c'est demain, je crois qu'ils arrivent, hein, pour la fête du Saint-Nom de Marie.
Oui, pour ce week-end, voilà, une grande célébration aussi prévue. Alors, Père Renaud Saliba, si nous revenons un petit peu en arrière, sur qu'est-ce qu'a été votre parcours de foi et comment est venue votre vocation ? Comment ça a commencé pour vous ?
Je dirais que j'ai eu une éducation chrétienne classique, avec toutes les étapes prévues par la catéchèse, et puis communion, confirmation. Après, je dirais que je suis devenu, pendant mon adolescence, un peu un chrétien du dimanche. Disons que j'ai toujours eu la foi, mais ce n'était pas très vibrant, disons. Et puis, en fait, c'est quand j'étais étudiant à Paris que vraiment les questions sont revenues très fortes. Et puis, donc, j'ai vraiment revécu ma foi d'une manière très forte, quand j'ai commencé à être pèlerin dans le sanctuaire, pèlerin et puis bénévole dans le sanctuaire de Lourdes. Donc c'était au début des années 90, j'étais à l'époque étudiant à Sciences Po à Paris, et puis j'ai commencé à faire du bénévolat tous les étés, hein, régulièrement. Et ça a vraiment transformé ma vie, parce que j'ai fait des expériences qui m'ont fait beaucoup réfléchir, et puis qui m'ont donc fait poser la question de ce que j'allais faire de ma vie, comment j'allais réussir à la donner. Et en fait, c'est la vie religieuse, voilà, la première chose qui m'est apparue comme un chemin pour moi, devenir religieux. C'était dans la congrégation des Oblats de Marie Immaculée, puisque c'était eux qui m'ont donc accueilli au service jeune à l'époque, ils étaient en charge de ce service. Voilà, donc pour dire les choses... Simplement, en fait, c'est pas tellement la vocation de prêtre qui est apparue évidente pour moi au début, c'est la vocation religieuse. Entrer dans une congrégation religieuse pour vivre les vœux évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance et de persévérance.
Et donc ensuite, dans ce parcours, comment ça a pu évoluer ensuite pour vous ?
Voilà, c'est le mot, ça a évolué. Donc, l'expérience que j'avais fait à Lourdes, c'était vraiment qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour servir le Seigneur et pas seulement prêtre, parce que là-bas j'étais donc évidemment laïque, et puis on nous donnait beaucoup de responsabilités en termes d'accompagnement des jeunes. Donc j'avais vraiment l'impression que je laissais un petit peu au Seigneur le temps de me dire ce que je pouvais faire, parce que je voyais qu'il y avait donc une grande diversité et pas forcément donc le ministère ordonné de prêtre. Peut-être que au sein de ma congrégation, d'autres besoins, celui de l'enseignement, celui d'organisation, pouvaient se faire jour. Et donc, j'étais prêt à répondre en fait à une diversité de tâches. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à faire mes études, parce que tout le monde faisait des études, on n'était pas obligé de dire qu'on voulait devenir prêtre. On pouvait aussi laisser la question en suspens et faire donc des études de théologie. J'ai beaucoup aimé l'étude de la Bible. À ma grande surprise, je ne pensais pas, comme j'avais fait des études supérieures, je me suis dit « bon, il va falloir refaire encore des études ». Et en fait, la découverte de l'exégèse, comme on dit, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Donc, je me suis passionné pour l'étude de la Bible et donc je me suis spécialisé en Bible. Ce qui fait que la première tâche qu'on m'a confiée, c'est celle de l'enseignement. Donc, j'ai commencé à enseigner la Bible à l'Université catholique d'Angers. Et c'est progressivement, en fait... que j'ai perçu aussi les besoins énormes, hein, en termes de sacrements, Quand je voyais en particulier mes confrères qui avaient du mal à répondre à toutes les sollicitations, j'ai senti quand même un appel aussi à, eh bien, à recevoir donc, le diaconat et puis le presbytérat. Donc j'ai cheminé assez lentement, hein, et c'est donc à l'âge de 39 ans en fait que j'ai été ordonné en 2009.
Oui, d'accord. Donc déjà un beau parcours, mais riche de tout ce que vous avez pu déjà expérimenter auparavant, hein.
Voilà. Pour moi, vraiment, c'est ce qui a été au cœur de ma vocation, c'est la suite du Christ. Donc, quand le Seigneur demande, enfin, invite ses disciples à le suivre, qu'est-ce qu'il leur dit? Il a dit renoncez à vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est-à-dire renoncer à vos projets. Hein. Laissez-moi avoir les clés de votre bonheur, en quelque sorte. Hein. Je vais vous guider vers ce qui va faire votre joie. Et puis, prenez votre croix, c'est-à-dire, bon, bah, il y aura des épreuves, il y aura des choses, mais bon, il va falloir avancer, quoi. Hein. Donc renoncer à soi-même, hein, et puis porter sa croix. Et donc avec cette parole, j'ai cheminé, et c'est vrai que ça a été très riche finalement toutes ces années. Et ça a donc été pour moi quelque chose de lent en fait, hein, de très lent. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une grande joie d'être prêtre. Hein. Ça me paraît être une évidence. Mais c'est une évidence qui s'est très lentement imposée à moi, finalement.
Et au long de ce parcours, Père, est-ce que vous avez eu soit des figures de saints qui vous ont accompagné, qui vous ont marqué, ou même des rencontres humaines, tout simplement?
Oui, alors c'est plus des rencontres, parce que ça, je crois que c'est important dans une vocation. À des moments, il faut quand même qu'il y ait des choses un peu fortes, hein, parce que, elles sont très utiles dans les moments de crise après. Hein, quand on se dit, mais alors, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? On peut avoir des moments où on se pose des questions. Et c'est là que c'est très important de pouvoir se raccrocher à des moments où les choses étaient quand même très claires. Hein. Ça veut dire quoi, très clair? Ça veut dire que, bah oui, Dieu existe. Hein, et puis j'existe pour lui. C'est-à-dire se sentir aimé de Dieu, se sentir qu'il veille sur nous. Et puis donc se dire oui je peux miser ma vie sur Dieu. Donc j'ai eu bon bah, cette grâce hein, je pense comme beaucoup qui s'engagent dans l'Église d'une manière un peu radicale d'avoir donc des moments de dévoilement on peut dire hein, où les choses étaient claires que bah oui qu'il faisait Dieu comme on dit hein. Et puis après donc des figures de saints oui en particulier le fondateur de ma congrégation Eugène de Mazeaux, qui est une belle figure, qui n'est pas très connue en France, mais enfin, c'est quand même un saint qui a été canonisé donc, à la fin du XXe siècle, en 1995. Et j'ai beaucoup aimé le dynamisme de cet homme. Le fait de, voilà, la mission, le fait d'être zélé, de prendre des risques. C'est une figure donc énergique. J'avais un peu besoin de cela, quoi, parce que j'aurais plutôt eu tendance à être un petit peu passif. Et là, le fondateur m'a toujours inspiré de ce côté-là en se disant non, il faut oser les choses, même si des fois on force un peu sa nature hein, dans ce qu'on nous demande de faire, mais il faut oser. Hein, on ne peut pas rester dans sa zone de confort.
Et alors, Père, depuis quand finalement êtes-vous recteur donc du sanctuaire Notre-Dame de Pontmain?
Alors, je suis recteur depuis 2 ans. En fait, je suis arrivé à Pontmain en 2015. Après donc avoir enseigné la Bible pendant 9 ans donc à la faculté de théologie de l'Université catholique d'Angers. Donc Angers pour moi c'est pas très loin, c'est 2 heures de route. Donc en tant que prof à Angers j'étais déjà passé à Pontmain parce qu'il y avait des confrères qui y travaillaient et puis donc on m'a nommé là comme chapelain au début. Et puis je suis devenu recteur donc en 2018. Et c'est une tâche lourde, hein, parce que les terres, enfin, en tout cas celui de Pontmain ne ferme pas, donc c'est toute l'année qu'on est au service des pèlerins. Et donc là, ça me demande vraiment eh bien, de me donner dans ce travail, hein, qui est un travail passionnant d'ailleurs.
Alors justement, Père, on sent bien aussi la passion, cet intérêt très grand qu'a été pour vous l'exégèse biblique. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui, en tant que justement recteur de ce grand sanctuaire, l'occasion un petit peu de mettre à profit, d'utiliser aussi cette expérience précédente, ou pas trop?
Ben, La Bible, en fait, elle est au cœur de tout ce que l'on fait, hein, pas simplement les prêtres, mais chaque fois qu'il y a une rencontre d'un groupe, qu'on fait une retraite, qu'on fait une formation, il y a toujours l'Écriture sainte. Hein. Et c'est une des grandes leçons du Concile Vatican II. L'Écriture sainte est à la base de tout ce qu'on fait en Église. Donc, de ce point de vue-là, j'ai pas du tout quitté cet amour de la Bible. Je suis toujours en contact avec elle. Mais c'est l'aspect recherche, en fait, qui a disparu.
Oui, c'est
parce
ça.
Parce que quand on enseigne, on est toujours en train de se dire qu'il faut continuer à ausculter le texte. Il y a encore des choses à découvrir. Et c'est vrai, d'ailleurs. Hein. C'est d'ailleurs extraordinaire. Moi, ça m'émerveille toujours de voir qu'on continue à publier des livres. Hein, 2000 ans après l'écriture de ces petits textes que sont les évangiles, ce ne sont pas des longs textes, a priori ce sont des textes tout simples quand on les lit, et on continue à publier des thèses, et il y a toujours des choses passionnantes qui sont dites, des nouvelles compréhensions de ces textes. Donc là, l'aspect recherche, non, je le vis plus, un petit peu quand même, parce que une apparition mariale, c'est un message d'évangile. Et il y a beaucoup de choses dans le message, parce que pour moi c'est un message écrit, mais aussi dans les gestes que peut faire la Vierge Marie en ses apparitions, la manière dont elle est vêtue, les éléments cosmiques, il y a beaucoup finalement de petites réminiscences, on pourrait dire, de la Bible. Et ça, c'est une de mes petites joies, c'est de me dire quand je lis un psaume ou un passage de l'Ancien ou du Nouveau Testament, ça me fait penser un peu à Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de l'Espérance. Puisque Marie, on le sait, c'est la Vierge au livre, hein. Elle lisait l'Écriture, elle était pétrie de cette Écriture. Hein. Avant d'accueillir la parole de Dieu en son sein, elle a d'abord beaucoup, beaucoup médité la parole de Dieu écrite.
Alors justement, Père, puisque vous êtes recteur de ce grand sanctuaire de Notre-Dame de Pontmain, qu'est-ce qu'il faudrait retenir du message de la Vierge Marie à Pontmain ?
À Pontmain, Marie invite à la prière confiante. Le message, il est pas très long, hein, il tient en 16 mots. Elle dit tout simplement « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Ça fait 16 mots. Et elle vient adresser ce message de persister, de persévérer dans la prière au moment où justement il y a un manque vraiment patent de prière dans le village parce que on est à la fin de cette guerre de 70-71. Et il y a vraiment décidément trop de défaites, trop de mauvaises nouvelles. La situation est catastrophique. Hein. Il n'y a plus du tout d'espoir de victoire. Et donc, les gens se disent à quoi bon prier. Et justement, Marie vient pour dire, mais c'est à ce moment-là hein, qu'il faut prier. C'est quand on a l'impression de se taper la tête contre un mur. Eh bien, c'est le moment particulièrement où on a besoin de prier, parce que c'est le moment particulièrement où peut-être Dieu nous écoute. Hein, le pauvre cri, hein, quand le cri du pauvre est entendu par Dieu. Donc, elle, c'est ça pour moi. C'est un message qui s'adresse à ceux qui veulent vivre dans l'espérance, même si, et justement parce que leur vie est tellement dure qu'ils ont du mal à croire qu'ils existent pour Dieu et que Dieu peut faire quelque chose pour eux. Alors c'est souvent le cas. Marie intervient très souvent dans des situations qui sont des situations de blocage. Hein. On pourrait en dire autant pour Lourdes avec la situation de la petite Bernadette et de la famille Soubirous qui est au cachot et qui vraiment n'a pas un avenir brillant devant eux. Ou pour les petits bergers de la Salette aussi, ou à Fatima en pleine Première Guerre mondiale. Voilà, donc il y a particulièrement ça pour moi avec cette guerre et donc, la prière confiante, et puis la deuxième chose, c'est la joie. Alors ça, c'est très étonnant parce que une apparition, c'est quand même un phénomène surnaturel. Enfin, ça, des fois, je regarde le ciel de Pontmain la nuit, je me dis, mais si je voyais la Notre-Dame m'apparaître, comment je réagirais? Est-ce que j'aurais le courage de la regarder, de me laisser regarder? C'est quand même impressionnant. Eh bien là, les enfants ont été plongés tout de suite, dès la première instant, dans la joie. Il n'y a pas du tout de peur à Pontmain, dès le début de l'apparition. Il y a ce sentiment de cette joie immense d'être regardé par ce regard plein de bonté, plein de douceur. Et donc, c'est une apparition joyeuse. C'est un Magnificat, en fait. C'est Marie qui nous fait partager sa joie de croire et qui nous invite à croire en son fils, puisque à Pontmain, elle montre la croix de son fils. Elle ne vient pas pour se faire admirer, elle vient pour nous montrer la croix de son fils. Voilà. Donc c'est un très beau message, très théologique.
Et alors justement, ce message est venu de la Vierge Marie dans ces temps difficiles que dont vous avez parlé à l'instant, Père. Bon, aujourd'hui, on vit des temps qui sont un peu compliqués, on va dire. Est-ce que vous êtes vous-même, en tant que recteur, un petit peu impacté aussi par cette crise que nous traversons avec le sanctuaire, par rapport aux pèlerins qui viennent peut-être moins nombreux? Comment ça se passe et quelle est justement cette espérance d'autant plus importante aujourd'hui que nous traversons ces moments difficiles?
Oui, bien sûr, toute la France, évidemment, est touchée, l'Église aussi, les sanctuaires d'une manière particulière, parce que nous vivons de l'accueil. Et donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, tous les groupes étrangers ne peuvent pas venir, alors qu'il y en a quand même un certain nombre. Et puis, pareillement, on a dû finalement annuler, et encore aujourd'hui, il y a des groupes qui annulent, alors qu'on peut maintenant accueillir dans de bonnes conditions sanitaires, respectant toutes les règles. Voilà, donc pour nous, ça a été quand même un crève-cœur un peu de devoir renoncer à toute cette belle saison, parce que dans les sanctuaires, c'est à partir du mois d'avril qu'on a le plus de groupes, avec les beaux jours et les journées un petit peu longues. Donc ça a été difficile, mais on pense évidemment surtout à ceux qui sont malades et puis qui souffrent, j'irais, directement dans leur corps de la maladie. Mais voilà. Alors après, oui, l'espérance, exactement. Nous sommes dans une situation aussi un peu de blocage par certains côtés, et pas que par la question du Covid, mais l'Église en France, on peut avoir aussi l'impression que quel est l'avenir qui est devant nous. Et donc on est invité à vivre dans l'espérance. Et puis, pour moi, vivre dans l'espérance, c'est pas une méthode couée, c'est pas se dire mais de toute façon tout va s'arranger comme ça. Mais c'est de dire, bon, il y a des difficultés, mais il ne faut pas qu'on se laisse écraser par ces difficultés. Parce que, à Poma, Dieu nous a fait signe d'une manière vraiment très forte. Eh bien, oui, si Dieu est avec nous, ou s'il nous envoie de tels signes, de quoi est-ce que nous avons peur exactement? Ce qu'il faut, c'est être authentique, je pense. Moi, c'est ce qui me guide un petit peu dans ma vie de prêtre aussi. On ne peut pas forcément des très grandes choses, mais il faut toujours être authentique dans ce qu'on fait. Voilà. Et ça pour moi, ça suffit pour que l'Église rayonne. On n'a pas à faire des, je dirais, des, à s'inquiéter outre mesure, à essayer de faire des choses extraordinaires, de renverser la table. Je crois qu'il y a un appel à ce que les chrétiens soient vraiment des croyants authentiques aujourd'hui et qui témoignent de quelque chose qui est au cœur de leur vie, qui n'est pas juste une idée. On voit ce qui se passe dans une apparition très souvent, c'est que les gens sont bouleversés. Alors bien sûr les voyants, mais les gens qui ont été témoins de cela. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on reconnaît une apparition mariale. Bien sûr il y a le phénomène surnaturel qu'on n'arrive pas à expliquer, mais il y a la conversion des cœurs. Et à Poma, c'est ce que le curé, qui n'a rien vu ce soir-là, a noté. Le lendemain, il a dit « ma paroisse n'est plus la même ». Les gens retournent à l'église, les gens se confessent. Il a senti qu'il y avait quelque chose de très, plus, très fort qui s'était fait dans les cœurs. Voilà. Si nous sommes des chrétiens qui vivons authentiquement notre foi, je crois qu'il ne faut pas trop se faire de soucis pour l'avenir. Il y aura forcément des fruits, parce qu'il y a quelque chose de vrai qui est vécu.
Eh bien, en tout cas, Père Renaud Saliba, merci, merci beaucoup pour ce beau témoignage, ces belles paroles sur l'antenne de Radio Maria France. Merci pour ce temps de partage avec tous les auditeurs.
Mais je vous en prie, et merci de m'avoir donné l'occasion de parler, de dialoguer un peu avec les auditeurs.
Merci infiniment, Père.
Merci, au revoir.
Au revoir.